live@basserockey.com, MSN ou encore pour Skype. Il est 6h05. Wake up, le show débute right now dans vos oreilles. J'espère que vous êtes en forme ce matin. Oui. On va botter les derrière ensemble, comme d'habitude, hein?
Ben oui.
Vous avez deux adresses, je répète, live@basserockey.com, MSN, Skype. C'est les façons de nous joindre en studio, la gang, pour ce matin. Notre chum caporal John sera avec nous. Saint-Jean sera aussi avec nous. Et pour tout de suite, ben, on va aller rejoindre Claude Reichmann. Claude Reichmann qui vient faire son petit tour avec nous ce matin. Une nouvelle fort intéressante de ce côté-ci pour l'Europe. Monsieur Reichmann.
Oui, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien, je vous remercie.
Oui, bon, alors, on entre dans le feu de l'action. Tout s'écroule, M. Reichmann, au niveau de la bourse.
Oui, tout va mal, effectivement, même si les dernières nouvelles sont un tout petit peu plus rassurantes, puisque le gouvernement américain semble-t-il décidé de garantir le rachat de tous les prêts subprimes, ce qui calme un tout petit peu les angoisses. Enfin, c'est une situation qui est effectivement complexe et dangereuse, et dont la cause, d'ailleurs, curieusement, n'est pas le marché. Actuellement, tous les gens de gauche sont en train de dire « Vous voyez, le marché est incapable de se réguler. » En réalité, c'est l'État qui est responsable de tout ça.
Monsieur Reichmann, excusez-moi de vous interrompre, mais votre son est très faible. On a peine à vous entendre.
Je me rapproche un peu plus, alors, mais vous m'entendez mieux, là?
Ah, là, c'est super. Fantastique. Bon. Fantastique. Merci beaucoup.
Voilà, donc je vous disais qu'actuellement, les adversaires de la liberté, et d'une façon générale, les adversaires du marché, sont en train de nous expliquer que le marché étant incapable de se réguler, c'est la preuve qu'il faut que l'État intervienne. Or, la cause de cette crise actuelle, c'est l'État. C'est l'État américain qui, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les firmes qui garantissent les crédits, vous savez, Fannie Mae et Freddie Mac, a poussé les banques à prêter beaucoup plus qu'elles n'auraient dû. Donc, comme elles étaient garanties, ben, elles ont prêté.
Mais oui, exactement.
C'est pas le marché qui est en cause, c'est l'État. Puis en plus, l'État a sélectionné, si l'on peut dire, des gens plus ou moins nécessiteux au motif qu'il fallait améliorer leur capacité d'accès au logement pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, c'est l'État américain qui a créé de toutes pièces les conditions d'une crise, et bon, les banques, vous me direz, auraient pu éviter de le faire, mais c'est difficile à une banque de refuser de gagner de l'argent, donc surtout quand c'est sans risque apparent. Et donc aujourd'hui, l'État américain va être obligé de payer la facture, et je dirais que c'est une certaine justice. Bon, de toute façon, il n'avait pas le choix, parce que on ne peut pas laisser un système s'effondrer, mais le principe, c'est évidemment qu'il ne faut pas faire ce genre d'action. Et d'autre part, le principe, ce serait aussi normalement de laisser les gens qui se sont trompés, notamment les actionnaires, payer le prix. Alors, d'une façon générale, l'État est plutôt venu au secours d'un certain nombre d'organismes, mais c'est surtout parce qu'il craignait qu'il n'entre même laisser tomber Lehman Brothers.
Ce matin, vous voyez, il y avait des nouvelles sur lemonde.fr, M. Reichmann. Le plan des pouvoirs publics américains rassure les marchés, c'est ce qu'on peut retrouver en première page du Monde. Et c'est quand même, enfin, on parle que c'est l'euphorie ce matin dans les marchés qui ont accueilli vendredi, aujourd'hui, la décision, c'est ça, des pouvoirs publics américains de mettre en place un gigantesque plan à assainir, dans le fond, les bilans des banques, voilà, comme ils l'avaient fait vers la fin des années 80, si je me souviens bien, pour sauver les caisses d'épargne, M. Reichmann. Voilà.
Exactement, oui, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand on en arrive à une situation comme celle-ci, l'État, en général, n'a pas tellement de choix. Et quand il a les moyens de sauver, au moins provisoirement, tous ces organismes, il faut qu'il le fasse, parce que même si c'est contraire aux règles du libéralisme et aux règles qui voudraient que ceux qui ont fait des fautes les payent, mais finalement, comme je vous le disais, la cause principale du mal réside dans la politique de l'État américain et de la Banque centrale américaine, qui a beaucoup trop prêté d'argent, beaucoup trop laissé filer le crédit, l'argent à bon marché. Et aujourd'hui, eh bien, les Américains vont le payer, mais on va le payer tous ensemble, parce que la réduction de la croissance américaine va évidemment peser sur l'ensemble des économies mondiales. Donc voilà, c'est une crise qu'il vaudrait mieux ne pas renouveler. Mais malheureusement, l'appel de l'argent est tellement fort que dès que un organisme voit pointer des milliards de dollars, c'est quand même difficile de refuser. Mais je pense que la grande leçon, si on est capable d'en tirer une, parce que c'est toujours la même chose, quand ça s'arrange, on ne prend plus aucune décision. Mais il y a deux leçons qui se dégagent de cette crise, deux leçons majeures. La première, c'est que il faut bien entendu que l'État cesse de favoriser des prêts bancaires qui sont totalement irresponsables parce qu'ils s'adressent à une population incapable de rembourser. Et le second point, c'est quand même que les établissements qui prêtent devraient être contraints de mettre ces prêts à leur bilan. Parce qu'on nous a expliqué que la titrisation, c'était une technique formidable qui permet d'enrichir tout le monde. Oui, à ceci près que la titrisation, c'est-à-dire le fait de transformer une créance que vous avez sur des débiteurs en obligation que l'on revend à d'autres, c'est une technique qui dissimule en quelque sorte les obligations de la banque et surtout les engagements de la banque. Donc à partir du moment où on remettrait un peu d'ordre, je pense que des situations comme celle-ci ne se reproduiraient plus, en tout cas pas à la même ampleur.
Il y a une chose qui est certaine, c'est que encore une fois, les méchants Américains rassurent, réussissent à remettre en place justement un plan qui, excusez-moi, je veux pas paraître cru, mais bon, je vais l'être quand même, qui sauve le cul à tout le monde, Monsieur Reichman.
C'est-à-dire qu'ils ont, c'est eux qui ont provoqué le.
Oui, c'est sûr.
La dette américaine, hein, et c'est, donc il est normal, si vous voulez, nous, on est pour rien dans le fait que les Américains ont fait des bêtises.
Mais il faut remarquer qu'on dépend encore, une fois à ce jour, on dépend encore de leur économie.
Mais bien sûr, puisque c'est la première économie du monde, et on a bien vu avec les illusions que certains ont entretenues à propos des pays émergents et du fameux découplage qu'ils prétendaient exister. Ils nous disaient, vous savez, la Chine, l'Inde, la Russie ont finalement des capacités économiques très fortes et ils ne seront pas touchés par la récession américaine. Tu parles, Charles, comme disait l'autre. Et en fait, ils sont bel et bien touchés. Et donc, il y a la bourse de Russie. Les deux bourses de Russie sont en train de s'effondrer. Ils ont même, je crois, enfermé une hier.
Mais je tiens encore à vous demander juste une chose, M. Reichman. Comme on m'explique de la part d'un administrateur qui dirige un site internet, c'est vraiment dommage. C'est parce que la qualité de votre son, je ne sais pas si c'est votre micro, je ne sais pas si c'est votre connexion internet. Je peux très bien, si vous voulez, on peut stopper l'entretien et que je vous rappelle sur une ligne fixe si vous le désirez.
Alors, sur ma ligne fixe.
Oui, alors pouvez-vous m'envoyer un tout petit courriel avec votre numéro fixe et puis on vous rappelle dans quelques instants, ça ne sera vraiment pas long.
Sur Rockick, là, sur Skype, je vous l'envoie.
Oui, envoyez-moi le sur Skype, ça va se faire super vite et puis je vous recontacte. D'accord. Désolé.
Allez, à tout de suite.
Au revoir. À tout de suite, exactement. Alors, on va tout simplement stopper l'entretien. Ben, on va rappeler sur une ligne fixe, comme ça, on va avoir une qualité un peu plus intéressante pour pouvoir entendre Claude Reichman. Puis, de toute manière, c'est sûr, quelque part, d'avoir quelqu'un d'aussi brillant que lui sur nos ondes, c'est quelque chose. Comment je pourrais dire, sans trop exagérer non plus, mais tu sais, quand vous avez une perle et que vous la laissez tomber dans la boue, ben je pense que ça se retrouve à être à peu près comme ça. Là. La qualité ne rend pas la force de Claude Reichman en ce moment. C'est pas. Non, vraiment, là. On est loin de la qualité 101 qu'on pourrait obtenir en temps normal avec lui. Comme je vous disais, ça se retrouve dans lemonde.fr. On a cette nouvelle-là. Qu'à l'ouverture de la Bourse de Paris, qui gagnait 5,47%, Francfort 3,94%. Je vous assure, c'est quelque chose d'assez spécial. Enfin, oui, c'est vrai que c'est les Américains, mais qui sont dans un problème assez difficile en ce moment. Mais je crois quand même une chose, c'est que en ce moment, c'est eux qui détiennent d'une certaine façon la possibilité, peut-être pas de nous sauver le derrière, mais quand même. de réussir à justement là ramener le bateau et pour que justement tout cesse de s'écraser. Alors ils ont quand même réussi cette semaine. Oh, ça sonne. Alors, est-ce que Monsieur Reichmann... Bonjour, Monsieur Reichmann.
Oui, bonjour.
Bon, alors, je crois que ça va rendre un peu plus le savoir que vous avez avec la ligne de téléphone fixe.
Oui, écoutez, j'espère que ça va marcher mieux, parce que je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si c'est le micro ou le branchement, mais moi, je vous entendais parfaitement bien, mais vous ne m'entendiez pas assez bien, cela, hein?
Oui, c'est comme si vous étiez très loin du micro.
Ah, d'accord, écoutez, il vaut mieux qu'on passe par le téléphone fixe, là, hein?
Ah, y a aucun problème. De toute manière, avec Skype, nous, on a un forfait illimité. On peut appeler quiconque et parler 4 heures si on veut avec vous.
Bon. Ben, écoutez, alors, il faut amener les sandwichs, alors.
Oui, déjà, les gens me disent le son est beaucoup meilleur, monsieur.
Voilà.
Reichmann. Alors, bon. Où en étions-nous, monsieur Reichmann?
Alors, nous étions en train de dire que finalement, nous dépendons de l'économie américaine.
Exact.
Et que j'étais en train de vous expliquer que les pays, les pays émergents, c'est-à-dire les puissances nouvelles comme la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres, sont touchés, contrairement à ce que certains avaient prétendu, car c'était d'ailleurs d'une simplicité biblique. À partir du moment où ils faisaient l'essentiel de leur commerce avec les États-Unis étant touchés, ils ne pouvaient qu'être touchés à leur tour. Donc tout ça était absolument évident. Et puis, juste avant, je vous disais que les fautes commises par l'État américain qui a prêté, qui a laissé des taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps et qui a poussé les deux organismes qui sont actuellement sous sa coupe, qui sont revenus sous sa coupe, mais qui l'étaient déjà avant, c'est-à-dire les gens qui garantissent les crédits immobiliers, Freddie Mac et Fannie Mae, eh bien, c'est l'État américain qui en laissant des flots d'argent se déverser sans aucun risque, puisque c'est lui qui garantissait les prêts bancaires, a créé les conditions de l'effondrement. C'est lui qui a fait se créer la bulle immobilière, puis quand la bulle a crevé comme toutes les bulles, eh bien les organismes qui ont prêté de l'argent se sont retrouvés avec des créances qu'ils ne pouvaient pas recouvrer d'une part, et d'autre part, ils en avaient vendu tellement sous une forme titrisée, c'est-à-dire qu'ils avaient sorti de leur bilan les prêts qu'ils avaient consentis, ça pourrit littéralement tous les flux bancaires. Et donc actuellement, vous avez les banques ne se prêtent plus d'argent parce qu'elles ne savent pas quelle est la situation de la banque avec laquelle elles sont en affaire. Elles se disent, mais si ils ont encore beaucoup de prêts subprimes, ils n'arriveront jamais à nous payer. C'est pour ça que la décision prise cette nuit par le gouvernement américain de garantir tous les prêts subprimes, même si elle n'est pas très orthodoxe, évidemment, sur le plan de la responsabilité qu'on doit avoir quand on prête de l'argent, c'est quand même une décision qu'il ne pouvait plus éviter, dans la mesure où, effectivement, cette incertitude sur l'état réel des banques était de nature à entraîner les fonds. Donc, on ne pouvait pas, bien entendu, laisser l'ensemble du système bancaire mondial s'effondrer. Donc la leçon, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que d'une part, il ne faut plus que l'argent continue à circuler d'une manière aussi irresponsable, et deuxièmement, il ne faut plus, en tout cas ce serait beaucoup plus sage, que les banques qui prêtent de l'argent à des gens puissent sortir ces prêts de leur bilan, car plus personne ne sait à ce moment-là quelle est vraiment la situation de la banque.
Alors dans le fond, on a peut-être laissé trop de gens avoir touché à de l'argent ou à des hypothèques, peu importe le domaine ou la branche. Ouais, on a laissé trop de gens avoir droit à des taux d'intérêt très bas au niveau d'emprunt, et le résultat, on le voit, beaucoup de gens ont été incapables de payer, même avec des taux d'intérêt super, très bas, Monsieur Reichmann, parce que juste dans le secteur de l'immobilier aux États-Unis, c'est horrible. J'exagère pas le mot, parce que il y avait des reportages qui se sont faits sur CNN et Fox News, et je vous assure, c'est pas drôle, les gens avaient de la difficulté maintenant à payer leur maison, parce que bon, ils avaient le droit d'emprunter pour des maisons extraordinaires, que peu importe le montant, mais ils n'étaient pas plus capables de payer en bout de ligne le prêt accordé par la banque.
Oui, oui, mais c'est la raison pour laquelle la plupart de ces prêts, comme vous le savez, étaient des prêts à taux variable. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt augmentent, le montant des primes à rembourser augmente aussi. Et donc, les taux qui avaient été très bas au départ, quand ils ont contracté ces emprunts, se sont élevés par la suite. Et donc, ils n'ont plus été capables de payer. Ça se passe à un autre niveau aussi dans des pays comme l'Espagne. Mais le problème de l'Espagne est évidemment différent dans la mesure où une crise espagnole ne retentit pas forcément sur le monde entier, alors qu'une crise américaine, surtout à ce niveau-là, et surtout avec l'argent qui est en jeu, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'estimation qui est faite généralement, c'est que les banques ont prêté 2500 milliards de dollars en subprimes. Donc actuellement, les banques ont réussi à nettoyer, entre guillemets, 500 ou 600 milliards de dollars. Donc il reste pas loin de 2000 milliards encore de prêts qui sont dans la nature. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui les a et on ne sait pas avec quoi ils sont mélangés. Donc c'est la raison de l'effondrement bancaire et financier actuel, parce que plus personne ne veut prêter à personne, étant donné que la banque à qui vous prêteriez de l'argent, c'est ce qu'on appelle le marché interbancaire, la banque donc à qui vous faisiez confiance auparavant, est devenue suspecte, comme vous-même êtes devenu suspect à l'égard des autres banques, parce que personne ne sait qui a quoi. Et donc, vous savez, c'est comme une maladie contagieuse. On ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas, et on évite de se souffler dans la figure les uns les autres parce qu'on a peur d'attraper le microbe. Donc c'est exactement la situation des banques actuellement. Et il est bien évident qu'il fallait trouver le moyen de calmer le jeu. Alors je pense, enfin, j'espère, que les mesures prises par le gouvernement américain et également par une série de banques centrales, vous savez que la plupart des banques centrales, enfin, des grands pays, ont décidé de mettre en commun un fonds dans lequel on pourra puiser pour éviter que des établissements bancaires ou financiers ne fassent faillite. En tout cas, il faut essayer de retarder les faillites. Et donc, toutes ces mesures mises bout à bout ont fini quand même par établir un petit semblant de confiance qui s'est traduit par la hausse, la remontée des bourses. Mais il ne faudrait pas qu'un nouvel effondrement vienne à ce moment-là casser l'ambiance, si je puis dire, parce que c'est ce qui s'est passé, vous savez, après la quasi-nationalisation de AIG, l'assureur américain, parce que les gens se sont dit, mais si l'État met 85 milliards, c'est que la situation est encore plus grave qu'on nous l'avait dit. Oui. Et donc, ça a calmé dans un premier temps les inquiétudes, et puis ça les a augmentées presque aussitôt après. Donc, on est dans une situation c'est une situation d'urgence, il faut absolument que les banques centrales et les États fassent en sorte d'éviter l'effondrement général, parce que une fois que ça s'est effondré, alors ça devient absolument catastrophique, et puis c'est très, très dangereux, parce que ça ruine des pays entiers, et donc ça pousse des populations dans des attitudes d'émeute. Enfin bon, tout peut arriver dans ces cas-là, donc il faut absolument essayer de sauver les meubles, sans oublier que les responsabilités maintenant vont devoir être clairement définies. L'État se mette à une table et qu'on essaye de rebâtir d'une part un système monétaire international crédible, parce qu'actuellement les Américains, depuis 1971, fabriquent du papier monnaie comme ils veulent, puisqu'ils n'ont plus à le retranscrire en or. C'est-à-dire que la fin de l'étalon or en 1971 a fait en sorte que les Américains se sont libérés de toute contrainte, de toute entrave, et c'est pour ça qu'ils peuvent inonder le marché de papier. Donc ils sont évidemment renforcés par leur statut de première puissance mondiale, mais d'un autre côté, quand ils font des grosses bêtises comme celles qu'ils ont faites, nous les payons tous ensemble. Donc nous avons quand même un certain droit à leur demander de mettre un peu d'ordre chez eux.
Monsieur Reichmann, question de la part des auditeurs. Monsieur Reichmann, ne trouvez-vous pas qu'il est pour le moins caustique, que les libéraux appellent l'État au secours pour réparer leurs erreurs? Est-ce aux contribuables de payer pour la folie du libéralisme sauvage?
Alors ça, c'est ce que disent un certain nombre de commentateurs de gauche ou de gens qui sont hostiles au libéralisme, mais en réalité, ce que je viens d'expliquer, c'est que ce ne sont pas les erreurs des libéraux, enfin des banques libérales. Bon, elles ont certes commis l'erreur de prêter abusivement, mais
oui,
elles ont
exact.
Été fortement poussées à le faire par l'État.
Ce
n'est pas le marché. Et imaginez que l'État n'ait pas fait cela. Est-ce que vous croyez que des banquiers, qui sont quand même pas complètement fous, auraient prêté dans ces proportions et dans ces conditions à des gens dont ils savaient pertinemment qu'ils n'arrivaient pas à rembourser? À mon avis, il est évident qu'ils ne l'auraient pas fait, ou en tout cas qu'ils l'auraient fait très modérément et qu'on n'aurait pas eu une grosse crise. Si on a une grosse crise, ça n'est pas du tout la faute du marché. Le marché, lui, il a été faussé, tout simplement. On a faussé les conditions du marché en garantissant aux banques des prêts qu'elles pouvaient faire à n'importe quelle condition. Mais ça a été fait par l'État parce qu'il voulait, d'une part, que les Américains puissent accéder à la propriété. Il y en a quand même 9 millions qui ont accédé à la propriété grâce à ce système. Aujourd'hui, ils le payent très cher, mais en tout cas, il y en a qui ont pu acheter leur maison ou leur appartement et qui en restent propriétaires, même si beaucoup l'ont perdu. Et donc, il ne faut pas dire que c'est... Et vous avez tout à fait raison, ou les auditeurs ont tout à fait raison de dire que si les libéraux, enfin en tout cas si le marché avait été responsable vraiment de cette crise, ce serait anormal que l'État vienne à son secours. Mais en l'occurrence, l'État a joué les pompiers pyromanes. C'est lui qui a mis le feu, et donc c'est à lui d'éteindre l'incendie.
Parce qu'il y a une, comme on le disait au début, il est normal aussi à quelque part qu'ils réparent leur propre pot cassé pour la simple et bonne raison que c'est eux qui ont poussé justement à ce qu'il y ait un grand nombre de contribuables qui puissent avoir les moyens, comme par hasard, d'avoir les moyens de se payer des maisons, de se payer une maison, mais en fin de compte, ils n'en ont pas les moyens. Par exemple, vous parliez tout à l'heure des banques qui sont justement, recule lorsqu'elle voit un dossier où est-ce que la personne ne pourra pas payer parce qu'elle n'en a pas les moyens. C'est ici au Canada, je ne prédis pas non plus de chute aux enfers, mais si ça se poursuit, on parle d'un taux d'endettement de 33 000 $ par Canadien. Alors ça c'est parce qu'ils ont emprunté à la banque. Et tranquillement, dans le fond, le château de cartes aux États-Unis avec cette histoire d'immobilier, c'est la facilité d'accéder et d'avoir un prêt, c'est un peu la même chose du côté des États-Unis. Mais par contre, avec des plus gros montants. Et voilà pourquoi le château de cartes des Américains, enfin des gens qui ont cru que ce serait une bonne chose pour l'économie, s'est effondré en un tour de main. Nous, en ce moment, c'est tranquillement, mais sûrement, on peut se diriger vers là. On peut encore stopper le fait que les taux d'intérêt soient si bas et que monsieur, madame, tout le monde peut justement se casser la gueule. Vous voyez, il y a à peu près un mois, monsieur Reichmann, la Banque du Canada a décidé dorénavant que les gens devront avoir la somme le fameux 5% de mise de fonds pour accéder à une propriété. Parce que avant qu'ils passent cette loi-là, voilà déjà un mois, eh bien, tout le monde pouvait, sans avoir de mise de fonds, emprunter pour accéder à une propriété, mais avec un taux d'intérêt variable et plus haut, d'accord? Vu ce qui s'est produit aux États-Unis, ils ont tout de suite décidé, non, stop, on arrête, et on ne fait plus on ne fonctionnera plus comme ça, parce que on a eu l'exemple de ce qui s'est produit aux États-Unis. Il faut avoir cette fameuse mise de fonds de 5%. On ne fait plus on ne passe plus d'argent aux contribuables qui ne sont pas en mesure d'avoir cette mise de fonds là, parce que sinon on va s'avérer à être dans le même pétrin. Quoique en ce moment ils poursuivent quand même avec des taux d'intérêt super très bas, et ça ne donne pas de chance non plus à la dame qui gagne à peine à peine 25 000 euros par année pour donner une image. On lui ferait croire qu'elle pourrait accéder à une maison de 200 000 euros. Ça n'a aucun sens ici, là.
Oui, mais c'est... Bon, le principe, c'est quand même de s'assurer de la capacité de remboursement des gens à qui on prête de l'argent. Et pour ça, vous savez, d'une façon générale, en France, en tout cas, on considère que les personnes ne doivent pas consacrer plus de 30 à 35%, et parfois moins d'ailleurs, de leurs revenus à rembourser les emprunts bancaires pour l'acquisition immobilière. Donc, c'est un pourcentage qui reste à peu près raisonnable, mais ce pourcentage était largement dépassé aux États-Unis, où d'ailleurs, curieusement, les banques prêtaient sans même demander aux personnes qui empruntaient de l'argent si elles avaient les moyens de rembourser. Bon, les banques prenaient évidemment une caution hypothécaire, et à partir de là, elles se disaient, ben, s'ils ne peuvent pas rembourser, on saisit la maison. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que la bulle a crevé, et donc la valeur des propriétés qui gageaient les emprunts a baissé, forcément. Puis, à mesure que le nombre de gens qui ne pouvaient pas rembourser augmentait, il y avait de plus en plus de maisons sur le marché, donc la valeur baissait encore, et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'effondrement de ce marché. Mais c'est ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'on refait toujours les mêmes erreurs. Toutes les bulles fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a trop d'argent qui est mis sur tel ou tel produit ou telle acquisition, et à partir de là, bon, la valeur des propriétés acquises dépasse très vite l'entendement, ça devient fou, et c'est la fameuse affaire des tulipes au XVIIe siècle, les tulipes en Hollande, où à la fin, le marché s'est cassé la figure au moment où les gens se sont aperçus qu'une tulipe valait pratiquement le prix d'une brasserie. Donc, c'est devenu déraisonnable. À ce moment-là, depuis quelques temps auparavant, les plus gros, les plus riches avaient quitté le marché sentant qu'il allait se casser la figure. Et le marché s'est cassé la figure, et ceux qui étaient les moins bien lotis, c'est-à-dire ceux qui avaient acheté au plus haut et qui n'avaient pas beaucoup de moyens, eh bien, se sont retrouvés ruinés, tout simplement.
Mais vous voyez, M. Reichmann, ce que vous me dites là, ça me fait penser un peu à ce qui s'était produit en Argentine. On avait appelé, je me souviens, mon père qui est malheureusement socialiste gauchiste. Mon père qui était un peu de gauche, même beaucoup, et comme ma mère, me disait qu'il trouvait dégueulasse que tous les gens qui étaient en Argentine, qui avaient de l'argent, les plus puissants, s'étaient fait appeler pour faire en sorte que l'argent soit retiré, qu'ils retirent dans le fond l'argent de leur compte pour, bien sûr, qu'ils ne perdent pas tout. Et seuls les petits contribuables avaient tout perdu. C'est un peu vous m'expliquez, quoi.
Ben oui, c'est exactement ça. Et c'est toujours la même chose, vous savez. Oui. C'est-à-dire que quand vous créez les conditions d'une bulle, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire quand les prix dépassent les valeurs réelles des biens que l'on a achetés par emprunt, eh bien, au bout d'un moment, on perd tout contact avec la réalité, la bulle continue de grossir jusqu'au jour où quelqu'un s'aperçoit que ça atteint des valeurs déraisonnables, se met à vendre. Bon, et à partir de là, tout s'effondre. Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les spéculations, parce que une spéculation, c'est par définition le résultat d'un comportement moutonnier. Et il faut savoir que le boursier, quel qu'il soit, même au plus haut sommet de la hiérarchie bancaire, est un personnage moutonnier. Il fait ce que font les autres.
Exact.
Donc, à partir de là, quand tout le monde fait la même chose, le résultat aboutit à une catastrophe, et actuellement on est dans une catastrophe typiquement moutonnière, parce que le plus étonnant de tout ça, c'est quand même que le nombre de banques internationales ou de grands établissements financiers qui ont acheté des titres, des obligations dont ils ne connaissaient pas le contenu exact, mais comme ces obligations étaient plus ou moins pourries, elles rapportaient plus, donc les résultats de ces établissements étaient bien meilleurs que s'ils avaient simplement fait des opérations au taux habituel du marché, et du coup la rémunération des dirigeants de ces établissements était bien meilleure parce qu'ils avaient des résultats mirobolants. Les actionnaires étaient très contents parce qu'on leur disait, vous voyez, nous gagnons beaucoup d'argent. Et au bout d'un moment, quand ça s'est effondré, eh bien les actionnaires souvent n'ont plus que leurs yeux pour pleurer.
Autre question, M. Reichmann, est-il vrai qu'une des causes de cette déroute est la discrimination positive obligeant à prêter sur des critères raciaux et non économiques? Est-ce possible, ça?
Oui, c'est tout à fait exact. Il y a une loi qui a été prise aux États-Unis et qui a été appliquée et qui a poussé effectivement les banques et les établissements de crédit d'une façon générale a prêté beaucoup plus qu'il n'aurait dû, et notamment, enfin, c'est une loi de 1977, si je me souviens bien, ça s'appelle le Community Reinvestment Act, et il a été ensuite augmenté, enfin, renforcé en 1995, et donc les refus de crédit étaient sanctionnés, si vous voulez. Donc, en fait, les gens pouvaient se prévaloir du fait qu'ils appartenaient à des minorités pour dire « vous ne me prêtez pas parce que j'appartiens à une minorité ». Et donc, c'était considéré à ce moment-là comme une discrimination, voilà. Et bon, donc, oui, effectivement, c'est, mais vous savez, à partir du moment, là, on rejoint la question précédente, c'est quand même l'État qui est responsable de cela.
C'est ça,
exact.
Il y a
pris cette loi, c'est une loi de l'État, c'est pas une loi, ce sont pas les banques privées qui ont pris cette loi. Et donc, l'État a faussé le marché.
Alors, peut-être une autre question d'un autre auditeur. Kraken nous demande ici, est-ce que c'est pas risqué qu'une économie qui ne repose plus sur l'or, M. Reichmann?
Sur l'or?
Oui.
Bah, c'est le problème de l'étalon or, si vous voulez. Bon, l'étalon or a été abandonné parce que certains disaient, je crois que c'est Keynes qui disait, c'est une relique barbare. Bon, l'or avait un grand avantage, c'est qu'il empêchait une monnaie, enfin un pays plutôt, de fabriquer de la monnaie sans avoir à, en quelque sorte, à gager cette monnaie. Donc le retour à l'étalon or ne serait pas forcément une mauvaise chose. Bon, il faut reconnaître que l'or est un limite un petit peu l'expansion économique, dans la mesure où sa production est quand même une production de caractère matériel, quoi. Donc c'est un autre système, mais il ne manque pas d'économistes pour considérer qu'un retour à l'étalon or serait une bonne chose. On peut imaginer aussi des étalons matières premières, on peut imaginer d'autres types d'étalons. Mais enfin, ce qui est très mauvais, c'est le principe même qui est mauvais, c'est de pouvoir fabriquer du papier monnaie sans avoir le moindre gage, et c'est ce que les Américains ont fait depuis 1971. Et actuellement, le monde entier repose sur une montagne de dettes qui sont des dettes parfaitement artificielles, puisque ce sont des dettes qui n'ont aucune contrepartie de fabrication ou aucune contrepartie de biens. Et par conséquent, tant que ces dettes n'auront pas été apurées, on peut penser que la stabilité monétaire ne reviendra pas, et la stabilité économique non plus. Et pour ça, il faut que les États se réunissent à nouveau et fassent un nouveau Bretton Woods comme en 1945, de manière à ce que 44-45, je ne me souviens plus la date exacte, enfin c'était juste après la guerre, et donc qu'un système monétaire international fonctionne, et en particulier qu'il fonctionne de manière telle que un des États, le plus puissant en l'occurrence, ne puisse pas fabriquer impunément de la monnaie, car comme le disait, vous en souvenez certainement, le secrétaire au Trésor, M. Connally, qui était l'ancien gouverneur du Texas au moment où Kennedy a été assassiné, il disait le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème, disait-il aux autres occidentaux. Et effectivement, quand vous avez un État qui fait ce qu'il veut sur le plan monétaire, pour les autres c'est un petit peu difficile. Donc je crois que la leçon qu'il va falloir tirer, j'espère qu'on la tirera.
J'espère.
Oui, ben, on a tous intérêt à espérer, parce que vous savez, une fois que la tempête financière et bancaire sera apaisée, les vrais problèmes vont se poser à ce moment-là, parce que l'économie va forcément ralentir, les emprunts seront de plus en plus difficiles à contracter, et cette contraction de l'économie va se traduire par beaucoup de difficultés pour les gens. Donc, on est dans une situation qui est très délicate, et il va falloir vraiment que l'ensemble des États essaient d'agir raisonnablement, mais là aussi il y a un point très important, c'est que les États qui vont s'en tirer le mieux sont ceux qui ont le moins de dépenses, parce qu'ils ont de la marge de manœuvre. Et je pense que les États-Unis, de ce point de vue-là, se tireront mieux d'affaires que par exemple la France, qui n'a plus un seul euro de marge de manœuvre, elle n'a que des dettes. Donc quand on a que des dettes, on ne peut plus faire grand-chose. Donc ce qu'il faudra, c'est tailler dans nos dépenses publiques, tailler dans les régimes sociaux. Seulement, ça va se traduire par de grosses, grosses difficultés pour les gens. Et que voulez-vous, ça fait 30 ans en France qu'on n'a pris aucune décision positive. Alors, il y a un moment où il faut payer la facture. Bien, le moment est arrivé.
Exactement. Et on me pose une autre question. Peut-on s'attendre à un effondrement de l'immobilier en France? Est-ce que ça va suivre effet d'entraînement, quoi? Dans quelle proportion, à votre avis? Puis, faut-il attendre la chute pour acheter, quoi?
L'immobilier en France, vous voulez dire?
Oui, l'immobilier en France, exact. Oui, oui.
Ah bien, écoutez, bon, l'immobilier a déjà commencé à baisser beaucoup. Hein. Il y a les chiffres que nous avons sont tout à fait nets. L'immobilier, les ventes ont beaucoup baissé. Alors, l'avantage ou la différence par rapport, par exemple, à l'Espagne, c'est que l'Espagne a 1,5 million d'appartements en stock. Et on en vendait en Espagne en moyenne 500 000, 600 000 par an. C'est-à-dire que ils ont pratiquement 3 années de stock de vente, alors que la France, au contraire, a peu de stock, il y a une demande immobilière importante, mais le problème français, c'est justement la solvabilité des acheteurs. Et cette solvabilité est évidemment réduite beaucoup par la crise économique, mais il va s'ajouter un autre phénomène que je ne cesse d'annoncer depuis des années, mais qui finira évidemment par arriver, c'est que comme les retraites en France sont très menacées, tout simplement parce que nous avons un système dit de répartition, et que la répartition, c'est un phénomène qui consiste à payer les retraites avec l'argent des cotisants actuels. Donc on ne constitue pas un capital, on paye, c'est-à-dire qu'on prend de l'argent aux gens qui travaillent, qui sont en activité, et on paye les retraites de cette manière. Seulement, pour qu'un système pareil soit viable, il faut qu'il y ait quand même au moins 4 cotisants pour un retraité. Et actuellement, nous n'avons même pas 2 cotisants pour un retraité, et on va, dans les années qui viennent, atteindre le pourcentage de 1 cotisant pour un retraité. C'est-à-dire que vous allez avoir un cotisant, c'est un type qui travaille, un type ou une femme, et qui va devoir payer la retraite d'une personne, ses soins de santé, les soins de santé de cette personne également, qui seront plus importants, puisque ces personnes sont plus âgées, et qui en même temps va devoir vivre elle-même, faire vivre sa famille, et éventuellement faire quelques économies pour la suite. Donc tout ça sera impossible, et donc les retraites vont poser un énorme problème. Et comme les gens se sont plus ou moins constitués un petit capital immobilier, c'est-à-dire ceux qui ont pu ont acheté qui un petit appartement, qui une petite maison, etc., quand la retraite va se mettre à baisser vraiment, les gens vont se dire il faut absolument que je réalise mon bien, parce que sinon je vais crever de faim. Et du coup, vous allez retrouver sur le marché des centaines de milliers de biens immobiliers qui vont faire s'effondrer les cours, et là, vous aurez une crise majeure. Mais toutes ces crises sont faciles à prévoir, parce qu'en réalité, elles sont le fruit de l'imprévoyance totale des pouvoirs publics depuis des années et des années. Alors, les rapports n'ont pas manqué. Il y a pratiquement un rapport par an pour nous expliquer ce qu'il faudrait faire, mais ensuite, on fait n'importe quoi.
Croyez-vous pas qu'il serait, enfin, je veux pas non plus pointer du doigt les Américains, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il aurait pu être possible qu'ils sachent qu'on aurait pu se diriger vers là, qu'on aurait pu justement tomber dans un cul-de-sac, quoi, comme celui-ci, dans celui qu'on est en ce moment, quoi?
Ah oui, mais les Américains auraient parfaitement pu éviter de créer cette situation. Mais que voulez-vous, la Banque Centrale Américaine, sous la direction de M. Greenspan, a considéré qu'il valait mieux arroser d'argent à l'économie de façon à maintenir une activité suffisante, etc. Et en plus, il y avait des motifs politiques, comme on les a analysés tout à l'heure, qui faisaient que on souhaitait favoriser l'accès à la propriété des Américains modestes ou un petit peu moins modestes, enfin d'une majorité d'Américains. Et du coup, on a effectivement permis à plusieurs millions d'Américains d'acheter des maisons ou des appartements, mais une partie d'entre eux était manifestée pour participer à cette distribution, et lorsque la fête s'est arrêtée, eh bien, le drame a éclaté. D'ailleurs, ils n'achetaient pas, je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, ils n'achetaient pas que de l'immobilier, vous savez, à cause de la spéculation et à cause de la bulle. Quand un appartement, par exemple, ou une maison se mettait à valoir, ben, prenons un exemple, mettons un exemple comme ça au hasard, 100 000 dollars, bon, c'est plus que ça, mais enfin, mettons que vous ayez une maison dont la valeur est de 100 000 dollars, la bulle a fait qu'à un moment, elle atteint 150 000 dollars, eh bien, les banques disaient, ben, vous avez 50 000 dollars de plus, on peut vous prêter de l'argent sur ce montant. Et du coup, vous aviez non seulement des emprunts immobiliers, mais ils ont acheté des voitures, acheté autre chose. Et donc, tout cet endettement est totalement déraisonnable.
Mais totalement déraisonnable. Une dernière question, M. Reichmann. On me demande de la part toujours de Kraken, est-ce que la récession économique en cours ne serait pas un mouvement sioniste pour affaiblir l'économie américaine, pan-américaine pour établir de force l'améro, la devise américaine, canadienne et mexicaine pour concurrencer l'euro?
Non, je crois que c'est vraiment...
Non, c'est poussé un peu. Hein.
Des illusions, ouais. Non. C'est, vous savez, les choses sont hélas beaucoup plus simples. La crise actuelle est une crise qu'on a parfaitement identifiée. On sait d'où elle vient. On sait que ce sont des décisions irresponsables des autorités politiques américaines pendant trop d'années qui ont fabriqué une bulle. Bon, cette bulle a éclaté. Et aujourd'hui, le vrai reproche qu'on peut faire aujourd'hui au marché, c'est non pas la création de cette bulle, parce que ça, les autorités politiques en sont entièrement responsables, mais c'est le fait que des banques, de grandes banques internationales, aient acheté des obligations dont elles ne connaissaient pas le contenu. Et elles ne savaient pas exactement quelle était la part des prêts immobiliers. Donc c'est vraiment acheter en aveugle. On achète des trucs en se disant, ben voilà, ça rapporte mieux, et moi, je vais présenter à mon conseil d'administration un bilan beaucoup plus favorable, je serai mieux payé, par conséquent, tout ira bien. Bien non, tout ne va pas bien, puisqu'il y a un moment où vous vous retrouvez avec un portefeuille d'obligations pourries, et vous, votre grand souci, comme elles ne valent plus rien, c'est de savoir que, d'abord, il faut les passer à votre bilan, donc votre bilan s'effondre, et du coup, les gens s'affolent, et tout se met à s'effondrer, puis vous avez des banques qui valaient une fortune et qui ne valent plus rien. C'est ce qui s'est passé avec les banques d'investissement américaines qui se sont cassées la figure. Mais il n'est pas besoin de faire un grand plan machiavélique pour arriver à ce résultat. Il suffit de faire le nombre de bêtises suffisantes pour que on arrive à une situation aussi catastrophique. Et de ce point de vue-là, on peut vraiment faire confiance aux hommes de l'État. Ils ont réellement produit une situation catastrophique.
Monsieur Eichmann, c'est toujours un plaisir. On se reparle le vendredi prochain.
Absolument, à la même heure.
Merci beaucoup, Monsieur Eichmann, et puis passez un excellent,
un
bon week-end. Merci beaucoup, un bon week-end. Au revoir.
Au revoir.
C'était Claude Eichmann que vous venez tout juste d'entendre sur les ondes du www.rocky.com. Wake up le show. Since Good m'a envoyé une